Bonsoir à tout le monde, bonsoir, et puis bonne année, je pense, on peut le dire quand même, enfin on espère, on souhaite, enfin tout ça. Donc vous êtes à l'écoute de Idées Noires, l'émission de l'UCL, de l'Union Communiste Libertaire. À tout de suite. Eh bien, rebonsoir à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute de Idées Noires. Ben, c'est l'émission, hein, vous le savez, de l'Union Communiste Libertaire. Ça a lieu tous les mercredis de 20h à 21h sur le 102.2 de Radio Canu. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, j'ose dire bonne année.
Et oui, Daniel, bonne année à toi, bonne année à nos éditeurs, bonne année aux camarades qui nous écoutent et qui luttent. Bonne année 2024. Bon, qu'est-ce qu'on peut souhaiter ? Que les mauvais coups vont reculer, ceux du patronat et ceux de l'État, et que le mouvement social va redresser la tête, et que ça soit sur le front des luttes sociales et syndicales, sur le front des luttes pour le droit pour le droit des immigrés, que ce soit sur le front des luttes antisexistes et antipatriarcales, et ben on reprenne l'offensive, on gagne des droits qui soient progressistes et émancipateurs pour toutes et tous. C'est ce qu'on peut souhaiter pour cette année 2024. On sait que c'est pas simple, on sait qu'on est dans une sombre période, on sait que le monde a clairement viré à droite et que la peste nationaliste et nauséabonde pointe son nez un peu partout, et que c'est pas simple de tenir la ligne, de tenir bon le manche, mais on s'y emploie à notre échelle, à tous les niveaux, y compris sur cette antenne de Radio Canu, où en cette année 2024, on sera toujours là les mercredis soirs de 20h à 21h sur ce 102.2 pour donner un peu l'analyse et la critique sociale portée par les militantes et par les militants de l'Union Communiste Libertaire. Alors oui, tu as raison d'oser, Daniel. Bonne année, c'est ce qu'on peut souhaiter, parce qu'on va s'employer à ce qu'on passe, notre camp social passe une bonne année, et que les classes dirigeantes, le patronat et les possédants, eux, en passent une moins bonne. C'est la meilleure chose qu'on peut souhaiter. Voilà, c'est avec ces mots qu'on veut donc commencer cette première émission Idées Noires de cette année 2024. On va la commencer par plusieurs annonces de rendez-vous. Il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment, et ça prouve que c'est bien, que justement l'année, elle commence en lutte, elle commence en réflexion, en débat, en échange, en rencontre. La première chose qu'on voulait vous annoncer, c'est une projection débat d'un documentaire qui s'appelle La Terre parle arabe, de Maryse Gargou, à propos, bien évidemment, autour de la situation, autour de de ce qui se passe à Gaza, qui est toujours sous les bombes. Projection initialement prévue demain, jeudi 11 janvier à 19h à la Plume Noire. Et alors ouvrez grand vos oreilles parce que en raison de l'appel national à se rassembler demain devant les préfectures et les palais de justice contre les violences sexistes et sexuelles, dont on va vous parler un tout juste après, eh ben on a décidé de reporter cette projection au jeudi prochain, même lieu, même endroit. Ça ne sera pas le jeudi 11, ça ne sera pas demain, ça sera jeudi prochain, jeudi 18 janvier, toujours à 19h, toujours à la librairie La Plume Noire, rue Diderot. Mais voilà, demain, on vous invite plutôt à nous retrouver malgré le froid et à se rassembler contre les violences sexistes et sexuelles, donc à 19h devant la préfecture, et de venir à La Plume Noire jeudi prochain, jeudi 18. Bien sûr, on présente nos excuses à celles et à ceux qui comptaient venir à la projection demain pour ce changement et cette information tardive. Néanmoins, on estime que La Plume Noire doit rester un lieu au service des luttes et ne doit pas être en concurrence avec les luttes, et que ça aurait pas été très pertinent de se retrouver autour d'une projection alors que beaucoup de personnes, et notamment de militantes et de militants, seront dans la rue pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles partout en France devant les préfectures. Et c'est pour ça que nous aussi on sera les premiers à être présents dans les préfectures demain à 19h et qu'on reporte cette projection d'une semaine. Donc projection du documentaire La Terre parle arabe de Maryse Gargou, ça sera finalement le jeudi 18 janvier à 19h à la librairie La Plume Noire. Mais en tout cas, cette projection, elle garde toute sa pertinence, parce qu'on le disait, en cette nouvelle année, Gaza est toujours sous les bombes, et que alors qu'on rentre dans le troisième mois de bombardement en masse de la population gazaoui, qui est déshumanisée, on pourrait dire, est tenue collectivement pour responsable des massacres du 7 octobre qui ont été réalisés, la famine et les maladies, elles continue à se répandre à une vitesse qui est dramatique. On sait aussi que la coalition d'extrême droite au pouvoir en Israël, elle affirme sa volonté de continuer ce massacre jusqu'au bout. Elle évoque même de plus en plus ouvertement l'idée de dépeupler la bande de Gaza de sa population palestinienne, soit par les bombardements, soit par le transfert forcé de population. Et cette deuxième solution est parfois même présentée comme un acte soi-disant humanitaire. En tout cas, pour les Palestiniens et pour les Palestiniens, c'est une seconde Nakba après la catastrophe que fut le nettoyage ethnique de la Palestine en 1948. Alors l'idée de transfert de la population palestinienne est-elle nouvelle dans l'histoire du sionisme ? Et c'est justement pour en parler qu'on a décidé d'organiser cette projection donc, du film de Maryse Gargou, La Terre parle arabe. C'est un documentaire qui donne la parole à des Palestiniens et des Palestiniennes qui ont déjà vécu la Nakba. Et ce documentaire montre, citation à l'appui, que les dirigeants sionistes envisageaient ouvertement dès les années 1930 d'organiser le transfert forcé de la population palestinienne vers les pays arabes alentours. Et bien évidemment, après cette projection, on prendra le temps de discuter à la fois des racines historiques de l'horreur actuelle et puis des réponses politiques qu'on peut y apporter. Au-delà de l'urgence à stopper le carnage, la Palestine peut-elle devenir un État unique, laïque, démocratique, c'est-à-dire fondé sur l'idée d'égalité des droits de toutes et tous ses habitants. On peut se poser la question de comment en finir avec l'apartheid et le colonialisme israélien, et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, ici, depuis la France. Autant de choses qui pourront donc animer le débat qui suivra cette projection de ce documentaire La Terre parle arabe de Maryse Gargou à la librairie La Plume Noire. On vous le rappelle, non pas demain comme initialement prévu, mais jeudi 18 janvier, jeudi prochain, même heure, 19h, toujours à la librairie La Plume Noire, au 8 rue Diderot, sur le haut des pentes de la Croix-Rousse.
J'espère qu'on aura l'occasion de le rappeler donc mercredi prochain.
Bien sûr, un petit piqûre de rappel dans l'idée noire mercredi prochain.
D'accord.
On vous rappelle au passage la librairie La Plume Noire, 8 rue Diderot. En attendant, elle est ouverte le samedi de 15h à 19h. Et puis, on espère aussi dès mercredi prochain, le mercredi de 17h30 à 19h30. Voilà, ça c'était la première annonce. On vous en parlait du coup. Pourquoi on a reporté cette projection initialement prévue demain au 18 janvier prochain? C'est parce que demain, il y a partout en France, devant toutes les préfectures, sur l'ensemble du territoire, et où les palais de justice, il y a des rassemblements qui sont organisés. Un mois après le complément d'enquête sur Gérard Depardieu, il y a une quarantaine d'organisations féministes, dont le planning familial, Oser le féminisme, l'Assemblée des femmes, mais aussi des associations qui appellent j'appelle toutes celles et tous ceux qui défendent le droit des femmes, des enfants et des minorités de genre et qui refusent les violences sexistes et sexuelles. Donc à se rassembler demain, jeudi 11 janvier, sur l'ensemble du territoire, devant les préfectures ou les palais de justice. En fait, ces associations, elles entendent dénoncer très clairement le soutien qui a été apporté par Emmanuel Macron à Gérard Depardieu lors de sa longue allocution du 20 décembre dernier, hein, une allocution qui, quelque part, invalide la parole des plaignantes et entrave leur recours à la justice, qui anéantit leur espoir de reconnaissance du préjudice subi, et puis qui contrarie aussi les tentatives de reconstruction. On sait que lors de cette allocution, Emmanuel Macron avait dit son admiration pour l'acteur qui, pour reprendre ses termes, rend fière la France. Il avait fustigé aussi une chasse à l'homme et il avait invoqué l'éternelle présomption d'innocence, sans un mot pour autant pour les victimes présumées, et avec pour seul commentaire des images diffusées par complément d'enquête qui était le relais d'une fake news fabriquée sur les chaînes du groupe Bolloré. Et donc c'est pour ça que ces rassemblements du jeudi, par ces rassemblements donc de demain, du jeudi 11 janvier, la quarantaine d'organisations, elles veulent tourner la page d'un vieux monde pour construire un nouveau qui serait lui débarrassé des violences sexistes et sexuelles, et elles veulent aussi œuvrer à une vie dans laquelle en fait chaque agresseur, quel que soit son statut, ne pourra pas se retrancher derrière une quelconque impunité. Et c'est pour ça qu'on appelle à soutenir ce rassemblement, à y venir, et qu'on a décidé de s'y joindre, jusqu'à même reporter la projection qui était prévue donc à la Plume Noire. Il faut se mobiliser suite à cette affaire de Pardieu et aux réactions qu'elle a suscité, et c'est pour ça qu'à Lyon, le collectif Droits des Femmes 69 a décidé de relayer cet appel national et appelle à 19h devant la préfecture, et qu'on peut qu'appeler toutes celles et ceux qui défendent le droit des femmes, des enfants, des minorités de genre et donc qui refusent les violences sexistes et sexuelles à s'y joindre demain devant la préfecture du Rhône à 19h. Voilà, pour commencer cette émission, les deux rendez-vous importants, donc de demain et de jeudi prochain. Et puis, troisième rendez-vous qu'on va développer un peu plus, il tourne autour de la loi sur l'immigration et l'asile, une loi xénophobe et antisociale, on vous en a déjà parlé à plusieurs recours, hein, et deux dates... Excusez-moi, c'est tellement xénophobe et immonde cette loi qu'elle m'en fait tousser. Deux dates sont de mobilisation contre ce nouveau projet de loi Darmanin sont posées, deux dimanches de suite. La première, c'est ce dimanche 14 janvier, avec là aussi des manifestations à l'appel essentiellement des collectifs de sans-papiers, des collectifs de soutien aux migrants, et avec le soutien de très nombreuses organisations politiques et syndicales, dont la nôtre, dont l'Union communiste libertaire, en tout cas des rassemblements partout en France. Et à Lyon, le rassemblement, il est prévu ce dimanche à 14h, place Bellecour, ce dimanche 14 janvier. Et le dimanche d'après, nouvelle mobilisation contre cette loi Darmanin, contre cette loi sur l'immigration. Et cette fois-ci, encore plus large, avec une intersyndicale qui appelle à s'y joindre, avec de nombreuses associations de la vie civique. Et là aussi, il y aura une mobilisation à Lyon, comme partout en France, le dimanche 21 janvier. Mais l'heure n'est pas encore fixée, elle devrait l'être en fin de semaine. Donc on vous l'annoncera tout simplement mercredi prochain dans Idées Noires. En attendant, déjà, le rendez-vous est pris pour ce dimanche 14 janvier, 14h, place Bellecour, pour dire non à la loi sur l'immigration et l'asile. Hein, on l'a dit, une loi xénophobe et antisociale. On sait que le nouveau texte de loi Darmanin sur l'immigration qui a été issu de la commission paritaire a été adopté, donc cette fois-ci, soi-disant définitivement, le 19 décembre dernier par l'Assemblée nationale, où 349 députés ont voté pour ce texte, qui finalement est un véritable triomphe idéologique pour l'extrême droite, qui porte dans son programme une grande partie des mesures de ce texte depuis des décennies. La dernière version passée donc de cette loi est probablement la plus dure depuis 40 ans. Hein. Elle a été durcie sur presque tous les points. Le mythique barrage républicain à l'extrême droite a donc très largement explosé autour de la discussion sur cette loi. Les idées de l'extrême droite, elles ont très clairement infusé partout, à tel point que le RN lui-même parle de victoire idéologique. Et le message de cette loi, il est très clair, hein, c'est que les étrangers et les étrangères ne sont pas les bienvenus en France, que les outrances et les propos stigmatisants à l'égard des personnes migrantes ont servi de justification à des dispositions consternantes faisant de l'étranger très clairement un ennemi public. Et puis cette loi, elle constitue un durcissement, comme on le disait, sans précédent des conditions d'asile et d'accueil en France. Hein, ça marque un recul des droits fondamentaux de tous les étrangers et étrangères. Au lieu d'accueillir dignement celles et ceux qui fuient la misère, les guerres, les catastrophes climatiques, les persécutions et les menaces de mort, bah, le gouvernement, en accord donc avec l'extrême droite, a réduit les personnes migrantes à une population de seconde zone et il opte pour la privation de leurs droits en les soumettant à l'exploitation et à l'arbitraire. Et c'est d'autant plus inquiétant où, à l'heure où on pourrait dire où l'idéologie fasciste et l'extrême droite parade et s'ancre profondément dans notre paysage politique, eh ben, il est extrêmement important de pouvoir se mobiliser, de lutter contre toutes les formes de racisme et de discrimination. Et c'est pour ça qu'on doit refuser ces discours fascistes, islamophobes, antisémites, nationalistes. Et on doit s'opposer à cette loi Darmanin qui est fondée donc sur la stigmatisation des personnes migrantes qui sont assimilées à des délinquants ou à des criminels. Et c'est ce qu'on dira dans la rue, deux dimanches de suite. Ce dimanche 14 janvier, on vous l'a dit, à Lyon à 14h place Bellecour, et puis le dimanche 21 janvier aussi, au cours d'une autre manifestation. Alors pour ceux qui ne sont pas encore complètement convaincus de rejoindre ces manifestations et vraiment du caractère nauséabond de cette loi sur l'immigration et sur le droit d'asile, on peut faire une liste non exhaustive de tout ce que cette loi implique. La préférence nationale par le droit d'accès aux différentes prestations sociales, par exemple, qui seront désormais percevables uniquement après 5 ans de travail et donc de cotisation pour les étrangers. La déchéance de nationalité pour les Français binationaux en cas de condamnation pour homicide volontaire sur des personnes dépositaires de l'autorité publique. L'instauration d'un débat parlementaire annuel et de quotas sur l'immigration. Il y a aussi dans cette loi des attaques sur le droit du sol, avec le droit du sol qui n'est plus systématique. À présent, la nationalité française devra faire l'objet d'une demande à 16 ans afin de pouvoir l'avoir à sa majorité, ce qui est un véritable recul par rapport à des valeurs issues de la Révolution française. Attaques sur le regroupement familial, restrictions continuées avec des conditions encore plus restrictives, le rendant quasiment inaccessible. Des mesures qui vont faciliter les expulsions, puisqu'il y aura le rétablissement du délit de séjour irrégulier qui avait été aboli en 2012 et qui rend illégal et passible d'amende la situation irrégulière sur le sol français et qui rendra donc possible la chasse aux immigrés, aux migrants et donc l'augmentation des contrôles aux faciès. Il y a un flou autour de la notion de trouble à l'ordre public qui, elle aussi, facilitera les expulsions. Il y a dans cette loi la possibilité de retrait ou du non-renouvellement du titre de séjour pour non-respect des principes de la République, ce qui laisse de plus en plus de place à l'arbitraire pour les autorités. Il y a le durcissement de la double peine, avec l'interdiction du territoire français, l'ITF, généralisée en cas de condamnation pour des crimes ou des délits passibles de plus de 3 ans de prison, soit la majorité des délits et des crimes, hein, car il s'agit de la peine prévue et non de la condamnation réelle. Il y a l'expulsion qui est rendue aussi possible pour des personnes auparavant plutôt protégées par des mesures d'éloignement, des parents d'enfants français, des conjoints de Français étrangers résidant en France depuis 10 ans. Et là aussi, pareil, en cas de crime et délit passible de plus de 3 ans de prison, ils pourront se retrouver expulsés. Il y a des attaques sur le droit d'asile, puisqu'il y a la suspension de la prise en charge médicale et l'expulsion de l'hébergement d'urgence et mesures d'éloignement. C'est l'OQTF qui sera généralisé pour les déboutés du droit d'asile. C'est la fin de la collégialité des juges. Hein, la justice rendue sera encore plus hâtive, notamment en visio, dans une salle annexe des centres de regroupement administratif. Et puis, bien sûr, derrière toutes ces mesures, il y a des vies qui sont impactées, tout simplement. Il y a les femmes qui rencontrent presque toutes des expériences de violence sexuelle dans leur parcours de migration. Il y a les Français binationaux, il y a les parents d'enfants français, il y a les étrangers présents depuis 10 ans en France, avec des dérives graves à prévoir en termes de répression, on n'en doute pas. En tout cas, cette loi, de par ses attaques frontales aux droits acquis depuis des décennies de lutte, marque, on l'a dit, un tournant certain vers une certaine fascisation de notre société et la confirmation d'un racisme d'État et d'une banalisation aussi d'un racisme quotidien. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas l'accepter. C'est pour cela qu'il est important de se mobiliser maintenant pour le retrait de cette loi asile et immigration, qu'il faut refuser ce projet de société raciste et fasciste qui nous a imposé. Et c'est pour ça qu'on appelle toutes et tous à manifester ce dimanche 14 janvier à 14h à Lyon, place Bellecour, comme le dimanche suivant, pour dénoncer ces graves dérives de la société française. Voilà, comme le dit une très belle illustration qui est sortie il y a quelque temps au pays des Lumières, les plombs ont sauté, on est dans le noir. Et ben, il va être temps de rallumer la lumière, de rallumer un peu la flamme, d'un peu plus d'humanisme, d'un peu plus de solidarité, un peu plus d'égalité. C'est avec ces premiers mots qu'on voulait commencer cette première émission Idées Noires de l'année 2024, l'émission de l'Union Communiste Libertaire. Et on va faire une première pause musicale avec un morceau tout à fait à propos. On va retrouver le collectif Gisti, de soutien aux travailleurs immigrés, avec un certain nombre d'artistes qui avaient repris cette très belle chanson Des petits papiers il y a déjà quelques années.
C'est parti.
Thank you. vie.
Radio Canus en 2.2, la plus rebelle des radios.
Ça a stoppé brutalement, non?
Ça a stoppé brutalement, tout à fait. Ouais. On leur a coupé la chic au petit papier. Ça doit être certainement un coup de la censure gouvernementale, encore une fois.
En effet.
Mais on sera toujours là. En tout cas, vous êtes toujours sur l'écoute de Radio Canus en 2.2, la plus rebelle des radios. Comme tous les mercredis soirs, de 20h à 21h, à l'écoute de l'émission Idées Noires. Et
voilà.
Et on va poursuivre avec... Daniel, une traditionnelle page de brève de lutte sociale et syndicale.
Ben oui, j'étais absent un petit peu, même un bon moment ces dernières semaines, donc il s'est passé des choses. Donc j'ai fait un petit medley, on va dire, un pot pourri, un mélange de l'ancienne année et de la nouvelle, évidemment. Mais enfin, on va en rester au mois de décembre, hein, quand même. Hein. Je ne vais pas refaire toute l'année 2023. Donc c'est comme ça que, à Sochaux, dans le Doubs, c'était à la mi-décembre, chez Stellantis. Alors, je ne vais pas rappeler encore une fois qu'est Stellantis, c'est un consortium. C'est composé de PSA, de Fiat, enfin, etc. D'autres marques aussi de constructeurs de véhicules assez importants, dont Stellantis, on peut dire que c'est donc ex-PSA et ses acolytes, avec une colère ouvrière aux ateliers de ferrage. Alors, l'implication, c'est une vingtaine de salariés qui n'ont pas eu froid aux yeux, on peut le dire, mais plutôt dans leurs conditions de travail. Alors, point de chauffage, point de travail, production donc stoppée, la réaction n'a pas traîné, puisque le chef du personnel et sa bande se sont radinés et se sont inclinés devant l'argument de la grève. Les effets de chauffage, les effets de cette grève ont été bénéfiques, puisque le chauffage a été augmenté sans palabre, et aussi une distribution de vêtements chauds. Il n'y a plus qu'à donc recommencer pour les salaires. Alors dans le même secteur géographique, ce sont et cette fois les territoriaux de les personnels des territoriaux de Belfort avec 80 personnes de l'agglomération et la CGT en rassemblement devant la mairie le 21 décembre. Alors, cette mairie est tenue par un maire LR qui refuse d'accorder une prime inflation qui est quand même, on va dire, rondelette quand même, quand on a des petits salaires, de 300 à 800 euros. Alors, ça concerne évidemment les employés des crèches, les employés des gymnases, des établissements sportifs, quoi. En fait, les salariés aussi des ateliers, de l'administration. Alors, ils ont dénoncé cette incurie à l'encontre donc du collectif, de ce collectif de travailleurs et d'employés, ce mépris du travail public et de ce qui doit leur revenir de droit. Montpellier maintenant, c'est du rififi au sein de l'association GAM qui propose des services, cette association aux personnes fragilisées. Association elle fonctionne avec des travailleurs et des travailleuses sociaux qui ont fait grève donc le 21 décembre en protestation des directives prises par la direction, à savoir le remplacement de travailleurs en CDD par des bénévoles. Alors le budget, il y a une cause, hein, c'est que le budget de fonctionnement de l'association des services d'accueil est en berne et refus de la métropole et du département d'abonder au pot commun. D'où le non-renouvellement de 4 CDD. Alors une autre grève suivra probablement donc en janvier avec manifestation au menu devant la direction départementale. À La Rochelle, en Charente-Maritime, en cette fin de 2023, la mobilisation, on peut le signaler pour une fois au moins, c'est rare, mais on peut le dire, c'est une mobilisation d'un patron, un patron de restaurant pour son employé de 23 ans, Ousmane, c'est son prénom, qui est un travailleur sans papier. Il devait, Ousmane, pointer au commissariat donc, de La Rochelle tous les vendredis, si je me rappelle bien, Et puis, ben, le 22 décembre, au commissariat de la ville, ben, l'attendait au poste une fine équipe formée à la chasse aux migrants. En 24 heures, Ousmane était expulsé, malgré l'opposition de son patron, à l'OQTF, donc, qui frappait une nouvelle fois. Ousmane était en France depuis 3 ans. Il travaillait comme commis avec un contrat à durée indéterminée, un CDI. Il y a eu, outre l'engagement du restaurateur, une mobilisation des collègues d'Ousmane qui attendaient donc le renouvellement de son permis de séjour. Voilà, bon appétit, monsieur Damarnin. Alors, où vont se nicher, je dirais encore, parce que j'avais fait cette rubrique-là depuis quelques mois, où vont se nicher les luttes sociales? Oui, des fois, on se demande. On n'y croit pas, même des fois. Mais enfin, là, c'est un exemple. Hein, c'est l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Ben oui, c'est un lieu de travail aussi, quand même. Voilà.
Qui nous ramène en Normandie, Daniel.
Oui, ben voilà. Ouais. Donc, oui, ça a fait un peu quand même du bruit, si j'ose dire, parce qu'on le trouvait ça partout sur le web. Tout le monde en parlait de cette grève, donc à l'abbaye du Mont-Saint-Michel depuis le 26 décembre, avec des salariés en grève pour de meilleures conditions de travail, reconnaissance de la pénibilité. Grève qui a occasionné la fermeture ou voire la gratuité de l'entrée. Alors, bien joué contre le saint patron. C'est eux qui le disaient, hein, EL, hein, les travailleurs donc, du Mont-Saint-Michel, il y en a marre des 350 marches à grimper régulièrement, l'humidité, le froid, les locaux mal chauffés, rapportés donc par la CGT. Je pensais même que ça serait plutôt ici la place de la CFTC, mais enfin bon... Pourquoi pas aussi la CGT? Alors, un manque d'investissement, enfin, c'était dénoncé exactement comme ça, donc, etc., etc. 15 salariés sur 55, hein, ça fait peu, employés donc par le Centre des Monuments Nationaux, ont rouspété auprès de Saint-Emmanuel, avec aussi la CFDT et le syndicat Sud, pour une structure pérenne pour les travailleurs et travailleuses et accueillir les visiteurs et les visiteuses, 4000 quand même à cette période. Pour réponse, eh bien, le secrétaire général de l'établissement avance 7% de hausse des salaires depuis 2018. Hein, voilà. Et la belle affaire, donc, je dirais, pendant ce temps, eh bien, le saint patron se dort le plastron pour les salariés. C'est pas dans la poche, mais dans la manche. Elle est belle, celle-là, non? Voilà. La grève a été donc reconduite ce 6 janvier.
Sachant que le Mont-Saint-Michel, pour ceux qui ont des petites lacunes en géographie, se trouve justement dans la Manche.
Bah oui, c'est d'où dans la Manche. D'où, voilà, c'est tout. Et bah tant pis pour les Bretons, qui revendiquent aussi la propriété, je sais pas, enfin si on peut parler de propriété. Clermont-Ferrand maintenant, Clermont-Ferrand aéroport. Attention, 28 décembre, grève de 24 heures de tous les employés, selon les syndicats, afin d'exprimer leur mécontentement, leur colère. Manque d'informations sur l'avenir de l'aéroport et les incessantes réductions d'effectifs, la politique managériale, mais encore la dégradation de leurs conditions de travail et le développement de l'aéroport géré par Vinci Airports. Voilà. Donc, des vols ont été annulés quand même, parce que la grève était quand même assez importante. Rassemblement prévu sur le parvis de l'aérogare, 40% de participation, selon la CGT, qui signale les mesures d'activité partielle qui amènent les baisses de salaire. Alors, c'est vrai qu'on sait que maintenant, les aéroports, ils sont... remis clé en main à des grosses sociétés. Ici, c'est Vinci. Je crois que à Satolas, non, c'est à Lyon, c'est Vinci. Donc, comme ici aussi d'ailleurs. Donc voilà, Vinci reprend à son compte les. Pas tout seul, hein, quand même. Hein. Bon. Alors, à Chalon-sur-Saône, c'est un centre d'appel cette fois, donc qui s'appelle Connecta. après une fusion avec Condata Group, pour bien préciser. Condata Group, c'est le leader du Customer Management. Je vous laisse avec tout ça, hein, voilà, vous m'en direz tant. Bref, il y a conflit qui amène les salariés en grève illimitée ce 26 décembre pour les salaires demandés depuis des semaines. La direction a fait un geste, ah oui, un joli geste, 25 euros en chèque cadeau. À cette date, les négociations étaient remisées donc au réfrigérateur. La bagarre dure depuis novembre 2023 avec des pistes quand même qui ont été données. Enfin, on a essayé d'arranger un petit peu les bidons de tout le monde avec des tickets restaurants, des primes de déplacement, etc. Selon l'intersyndicale, où tout bonnement, il fallait demander une augmentation salariale à 5% et c'était plié. Eh bien, la grève a amené de 35 à 50 personnes sur un effectif de 250 salariés. La grève risque de finir ou même elle a bien fini d'ailleurs, je pense, pour une question financière. Voilà pour cette première page.
Puisqu'on parlait monde du travail, on va poursuivre avec quelques infos sur la traque aux chômeurs, la répression envers et le durcissement envers les bénéficiaires du RSA, du revenu de solidarité actif, puisque ça anime les projets du gouvernement depuis le mois d'avril dernier. On sait que le gouvernement envisage de faire travailler 15 heures minimum par semaine les bénéficiaires du RSA, mais peut-être probablement aussi leurs conjoints bientôt. Et puis peut-être, pourquoi pas, n'importe quel inscrit à Pôle emploi. En tout cas, on se dirige vers une véritable généralisation du travail forcé. Et il faut soulever cette affaire, en parler, dénoncer cette traque aux chômeurs qui s'intensifie encore un peu plus. Même si visiblement, entre les bonnes intentions du gouvernement et la mise en œuvre, c'est un peu plus compliqué. Et que le projet serait, qui était annoncé pour être mis en œuvre en cette rentrée 2024, serait reporté d'un an en 2025, parce que c'est pas si simple de faire travailler comme ça, de mettre au travail forcé des millions de personnes 15 heures par semaine. Alors on sait que depuis la fin des années 90 et la massification du chômage, les pouvoirs politiques et économiques ne cessent de rendre les chômeurs pour responsables de leur situation et tentent de les culpabiliser. Alors bien sûr, avec la création de France Travail, le gouvernement est évidemment déterminé à renforcer l'arsenal de sanctions qui sera à la disposition des opérateurs. Mmh. En avril dernier, comme je disais, cette idée, elle a germé, elle a été annoncée par Thibault Guilly, qui était à l'époque haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. C'était le nouveau patron de France Travail et il annonçait donc clairement l'activité forcée de 15 à 20 heures par semaine à l'époque pour les allocataires du RSA. Une véritable brutalisation du système économique qui atteignait alors des sommets. On sait que le RSA était considéré comme un revenu de solidarité et tentait un vague compromis social face à la massification du chômage qui devient structurel et qui est une des conséquences de l'irrationalité du système capitaliste. Et il est désormais considéré comme l'ultime chantage à ce qu'on pourrait appeler un esclavage économique insensé, travailler pour pouvoir toucher son revenu de solidarité actif. Mais malheureusement, le gouvernement, malheureusement pour lui, heureusement pour nous, comme on le disait, il se rend compte que quand il faut passer à l'application de ces mesures, il n'est pas forcément en mesure de fournir du travail forcé à des populations suffisamment en difficulté pour tenter de survivre avec le RSA. Et puis on pourrait se demander pourquoi et comment n'en fait-il pas du coup du travail justement rémunéré dans le cadre d'un contrat légalement reconnu, s'il y a tant de travail à fournir. Du coup, devant ces contradictions, le discours est un peu évolué. On va aller faire travailler ces gens dans des associations, mais les associations ne sont pas forcément prêtes à accueillir toutes ces personnes. D'où le fait que on va se donner un peu plus de temps et qu'on va reporter d'un an la mise en œuvre de ce processus pour finaliser un peu la mise au travail forcé des chômeurs, soit dans le domaine associatif, soit en les obligeant à faire 15 heures minimum qui seraient des démarches de recherche d'emploi, des actions de formation ou alors des stages en entreprise. En tout cas, la démarche du gouvernement, quelque part, elle reste la même. Hein, c'est fournir les entreprises en travailleurs et en travailleuses sous-payées à travers ces fameuses tâches. C'est un processus qui est quelque part cohérent avec l'ensemble des réformes de l'objet et des réformes de l'objectif, soi-disant, du plein emploi. On peut quand même rappeler que, selon la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, l'adresse 40% aujourd'hui des bénéficiaires du RSA sont en fait freinés dans leur démarche de recherche d'emploi pour des raisons de santé, c'est-à-dire près d'un sur deux, et 30% par des soucis de mobilité, et donc entendre qu'ils ou elles ne savent même pas comment se payer un ticket de bus, ben c'est quand même assez gonflé pour tous ces gens-là qui vivent des situations de difficultés très concrètes. On peut rappeler que ça a été quand même expérimenté pendant 6 mois dans 18 départements dans le cadre d'un nouvel accompagnement des nouveaux bénéficiaires au RSA, et qu'il n'y a aucun résultat probant concernant l'augmentation du taux de retour à l'emploi. Hein, mais par contre, on a comptabilisé qu'un quart des allocataires et participants ont été sanctionnés, alors que même que les sanctions liées aux 15 heures d'activité ne sont pas encore appliquées. Du coup, ça a été encore une bonne façon de supprimer le RSA à un certain nombre de personnes. Et puis, la dernière cerise sur le gâteau, la dernière nouveauté qui est sortie, la dernière infamie, c'est qu'évoquer l'idée que seraient concernés aussi les conjoints et les conjointes des bénéficiaires. Alors, vous avez bien entendu, hein, les conjoints et les conjointes, il reste à savoir comment cette obligation sera mise en œuvre, mais cela ouvre évidemment la porte à des émissions dans le domaine de la vie privée et de la sphère familiale qui est digne des États les plus autoritaires. Allez savoir pourquoi quelqu'un a fait le choix, un conjoint ou conjointe, de ne pas travailler ou exerce telle ou telle activité ou a décidé d'être, comme on dit, homme ou femme au foyer. On va peut-être pas le pousser parce que son conjoint est au RSA, à lui aussi devoir fournir une part de travail actif. En tout cas, ce texte de loi, il reste pour l'instant suffisamment flou pour se voir généraliser le mouvement venu aussi à l'ensemble des chômeurs qui seraient inscrits à Pôle emploi et dépasser le simple cadre des bénéficiaires du RSA. Et on peut rappeler quand même que ce texte prévoit via son article 2 un minimum de 15 heures d'activité hebdomadaire pour toute personne, pour reprendre les termes, inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'opérateur France Travail. Déjà, j'aime bien le terme d'opérateur. Après étude de sa situation individuelle. Donc ça veut dire qu'en l'état, on est face à une potentielle et tragique généralisation du travail forcé pour tous les salariés qui aujourd'hui sont privés d'emploi, dans un premier temps bénéficiaires de RSA, mais peut-être à terme, toute personne demandeuse d'emploi. C'est bien la mise au pas, le travail forcé, le travail gratuit qui risque de pendre au nez des chômeurs. L'État se donne encore un an visiblement pour affiner cette mesure sociale. Nous, on se donne un an pour essayer de contrer cette mesure antisociale et essayer d'en déjouer les néfastes conséquences.
France Travail, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais enfin, c'est ce qui remplace donc Pôle emploi.
Voilà, c'est le nouveau nom plus à la mode, plus dans l'air du temps.
Voilà. Depuis le 1er janvier, je crois, non, voilà, ça, voilà, il me semble bien.
Exactement. Hein, tu sais, travail, famille,
France
patrie,
Travail. Moi, j'ai connu la NPE, Pôle emploi peut-être.
Mais là, ça résonne plus.
Mais j'ai pas connu France Travail.
Ça résonne plus avec l'odeur nationaliste nauséabonde qui baigne un peu partout.
Oui.
C'est dans l'air du temps, malheureusement. Allez, on va faire une dernière pause musicale, deuxième et dernière pause musicale dans cette émission Idées Noires, l'émission de l'Union communiste libertaire.
Oui.
Ça fait plusieurs émissions que vous voulez passer les Cowboys Fringants, un groupe québécois engagé. Qu'on a souvent passé déjà dans cette émission et qu'on aime beaucoup. Parce qu'on a été un peu attristé d'apprendre que fin novembre, le chanteur de ce groupe, Carl Tremblay, est décédé à 48 ans. D'un cancer, contre lequel il se débattait depuis de nombreuses années. Et donc, les Cowboys Fringants, c'est un groupe orphelin de son chanteur qu'on n'entendra plus, en tout cas en concert, mais nous, on continuera à passer leurs morceaux, tel celui qu'on va passer ce soir, où il nous parlait justement du Québec moderne, de toutes ces illusions capitalistes, consuméristes et autres. Un beau morceau qui défendait aussi la préoccupation autour des enjeux climatiques au Québec et ailleurs, et l'illusion l'illusion du consumérisme capitaliste. Voilà, on avait envie de faire un petit clin d'œil à Carl Tremblay, le chanteur des Cowboys Fringants qui nous a quittés en cette fin d'année 2023.
Nous avions un disque d'ailleurs au Café Libertaire, à une époque, des Cowboys Fringants. Voilà, enfin bon, petit détail au passage.
Les années 70 dans un Québec en plein changement où l'emblème de la fleur de lys donnait un peu d'espoir aux gens. Mais quand je regarde ça aujourd'hui, je suis donc pas fier de ma patrie. Ça dort au gaz d'un bungalow, le cul assis sur le statu quo, en scavant de téléromans et de talk shows les plus stupides, se laissant mourir sur le divan avec leur petit air candide. Dans ce royaume de la poutine, on se complaît dans médiocrité, bien satisfait de notre routine et du bonheur préfabriqué. Tu un petit gratteux, me dit le caissier au dépanneur. En ouais, le gros sorton, si deux être millionnaire, c'est le bonheur. Se met à rêver le samedi, qui va peut-être quitter son taudis. Espère toujours mon dimoron, une chance sur 14 millions. Au stationnement du casino, un gars tire une balle dans la tête. Ayant tout flobé son magot, n'avait plus trop le cœur à la fête. Mais le gouvernement s'en balance, il se nourrit à même les gamblers en exploitant leur dépendance, un peu comme le ferait un pusher. C'est ça le Québec moderne, mais moi je mets mon drapeau en berne et j'emmerde tous les bouffons qui nous gouvernent. Si tu rêves d'avoir un pays, mais moi je te dis que t'es mal parti, t'as bien plus de chances de gagner à loterie. Et pendant des années, un petit peuple de yes-men qui marchait les fesses serrées quand arrivait le foreman. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Les gosses sont tous syndiqués, s'agencent 3-4 autour d'une pelle en regardant le plus jeune faire du zèle. Faudrait pas se réjouir trop vite, on est encore des porteurs d'eau à la solde des gens de l'élite et des pleins de marres en tuxedo. Quand le boss d'une grosse corporation, comme son usine en Gaspésie, te demandera pas ton opinion, il va te slaquer sans te dire merci. Un robineux qui est dans la rue, au pied d'un grand building en verre, il va passer inaperçu à la sortie des actionnaires. Ce qui compte pour eux, c'est les revenus, et non les problèmes de l'affaire. C'est pas de ma faute si t'es un trou de cul. Moi, l'important, c'est que je prospère. Et le premier ministre fait semblant qu'il s'en fait pour les pauvres gens, alors qu'on sait qu'ils sont au service des fortunés et de leur business. L'environnement, la pauvreté, c'est pas des sujets prioritaires. On n'en entend pas beaucoup parler derrière les portes des ministères. C'est ça le Québec moderne, mais moi je mets mon drapeau en berne et j'emmerde tous les bouffons qui nous gouvernent. Si t'es content de ce pays, mais ça mon homme c'est ton avis, tu dois être PDG d'une compagnie. Apprends que dans le Nord, il se passe de quoi de pas catholique. Que nos forêts sont mises à mort, ça jase dans l'opinion publique. Deux semaines et ça sombre dans l'oubli. L'histoire est morte et enterrée dans le parc La Véranderie. Ils continuent à tout raser, c'est ça le problème de ma patrie. C'est qu'il y a personne pour s'indigner contre la fausse démocratie. Faire les riches et les banquiers dans cette contrée peuvent les ignorer. Faut pas qu'on se rappeler de son histoire et c'est que juste les plaques de char qui ont encore un petit peu de mémoire. Québec moderne, mais moi je mets mon drapeau en berne et j'emmerde tous les bouffons qui nous gouvernent. Et c'est ça que ça fait une nation, probable que tu sois assez con, t'es mûr pour te présenter aux élections.
J'emmerde tous les bouffons qui nous gouvernent, les cow-boys fringants sur cette antenne de Radio Canus en 2.2. C'était un petit clin d'œil, un petit hommage à Carl Tremblay, on vous l'a dit, chanteur de ce groupe, qui nous a quittés en cette fin d'année 2023. En tout cas, on gardera cette chanson parce qu'elle correspond bien à cet état d'esprit sur Radio Canus et à cette émission Idées Noires, l'émission de l'Union communiste libertaire. On poursuit d'ailleurs avec notre deuxième page de brève sur les luttes sociales et syndicales, Daniel.
Je suis prêt, donc je vous emmène cette fois dans l'Ille-et-Vilaine. dans la charmante bourgade de Gaël, avec une mobilisation de travailleurs et travailleuses de la plateforme logistique Ezidis. Tout bonnement, c'est une filiale de l'enseigne Casino qui se trouve actuellement dans la tourmente. Je pense que tout le monde a suivi ça, surtout dans la tourmente, les salariés. Hein, ils sont 200 000 personnes dans le monde, 190 à Gaël, avec des débrayages et des manifestations. C'était fin décembre. Le groupe a 12, donc le groupe Casino, hein, a 12 de ses bases en France. 6 devraient disparaître avant de laisser la place. Et bien sûr, aux requins de la finance. Il y a 50 000 salariés en France aussi, j'ai oublié de le dire. Donc voilà, donc aux requins de la finance qui vont se gaver et des repreneurs éventuels. Je crois que c'est Carrefour qui doit... mettre la main à la pâte, j'en sais rien.
Carrefour Intermarché, je crois.
Ouais, voilà, c'est ça. Quelque chose comme ça, il y en a deux, ouais, effectivement. Donc, après, juste après Noël, le 26 décembre, donc à Boulogne-sur-Mer, quartier économique Capécure et quartier économique et industriel de la ville, lieu de résidence de la société Labéry qui exerce dans le domaine des produits de la mer et du terroir. En même temps, met les employés sur le sable par une procédure qui vise à fermer l'usine de sushis. Alors, je ne savais pas qu'on fabriquait des sushis en usine. Et ben voilà, c'est fait. On fabrique tout maintenant en usine. Alors, une quarantaine de grévistes devant un plan social au rabais. Pas question de bouffer des arêtes de poisson. Condition de départ en cours de négociation. Les suites de juillet, en juillet, il y avait eu quand même une première lutte avec un piquet de grève qui était en place. Le siège social de Labéry Fine Food est dans le sud-ouest. Alors, c'est une société quand même qui n'est pas pauvre, qui n'est pas malheureuse, surtout pour ses actionnaires. 1 milliard d'euros en chiffre d'affaires en 2021. C'est tout dans l'agroalimentaire. Et un historique assez abracadabrant, puisque la société a été créée en 1946, sur la jolie date. Donc, c'est à lire de fois, on peut avoir des choses très curieuses à lire des fois sur nos grandes sociétés, nos fleurons nationaux. Saint-Saulve, maintenant dans le Nord, c'était le 1er janvier avec la société Nicolin. Tout le monde connaît Nicolin, n'est-ce pas ? Donc Nicolin a repris le marché du ramassage des déchets et du traitement de ces déchets. Une trentaine de travailleurs, travailleuses, agents de la collecte en rassemblement à 5h30 le 4 janvier. Oui, parce que là, ça y est, on attaque le mois de janvier de 2024. Alors ça n'a pas traîné, évidemment. Hein. Nicolin assure le travail pour le compte de Valenciennes Métropole, sous-traitante dans ce marché et ses lois. Les agents se sont déjà mobilisés en début décembre, car mécontents des conditions d'organisation, c'est-à-dire le planning, qui était abracadabrant aussi, et des acquis sociaux. Les comptes épargnent tant d'ailleurs qu'on veut leur chouraver, ou du moins la société Nicolin souhaite qu'il l'utilise jusqu'à quand, mais voilà. Donc Nicolin a piqué le contrat à Suez. C'est Suez qui s'en occupait auparavant. À Boulou-Paris maintenant, c'est dans Conakry, en Nouvelle-Calédonie, le 4 janvier, avec une grève en station-service. C'est la quatrième grève depuis l'ouverture en 2022, sous la houlette de la Fédération. La grève est sous la houlette de la Fédération des travailleurs calédoniens exploités. En plus court, ça fait FSTCE. Deux salariés ont été licenciés pour faute grave. Leur faute, c'est d'avoir dénoncé l'embauche de personnes non habitantes de Boulou-Paris. Cette condition d'embauche avait été accordée pour la petite commune. Outre le gérant, aussi, ne respecte pas la sécurité et veut porter plainte contre les grévistes. La direction du travail et de l'emploi doit réunir les deux parties. Saint-Marcel, c'est en Savoie. Ce sont les salariés de M. MSSA, c'est du métaux, des métaux spéciaux, qui dénoncent leurs conditions de travail. Ils les jugent indignes. Le syndicat FO appuie leur colère. Plusieurs accidents qui ont été signalés par brûlures qui émaillent donc les journées de travail. 60 grévistes, c'était le 5 janvier, qui démontrent la volonté donc d'en finir avec les accidents, une cinquantaine en 2023, dus à des produits chimiques et graves en plus, qui ont nécessité une hospitalisation. Brûlures au lithium, brûlures au sodium, qui nécessitent des greffes... Pardon. Moi ça me prend aussi, tu vois, des greffes de peau. Dans le collimateur, des installations qui vieillissent. C'est une usine qui a 120 ans. Alors les témoignages, on a l'impression d'être dans un navire qui est en train de couler.
Comme quoi c'est contagieux.
Qu'est-ce qui nous arrive ? Vous nous envoyez du poivre là ou quoi ? Donc... MSSA est leader mondial pour la production de sodium et est classé Céveso seuil haut. Les travailleurs ont peur donc pour leur sécurité et celle aussi des habitants et habitantes autour du site et directement bien sûr concernés. Alors climat anxiogène, les grévistes exigent plus de sécurité, l'alarme est donnée, la direction doit agir au plus vite. En 2020, 25 jours de grève déjà dénonçaient la sécurité défaillante sur le site et pour de meilleures rémunérations. FO exerçait à ce moment-là son droit d'alerte. À Paris, c'est la Tour Eiffel, après le Mont-Saint-Michel, un autre fleuron du territoire.
Qui était en grève au mois de décembre.
Hein ?
Qui était en grève au mois de décembre
oui,
aussi.
Oui, Paris, 7e arrondissement, la Tour Eiffel, grève du 27 décembre, j'y reviens, avec l'occasion, l'occasion était superbe, c'était les 100 ans du décès de l'ingénieur Gustave Eiffel. Donc la CGT était à l'œuvre et qui dénonce une gestion chaotique de la Tour par la société exploitante La Tour, c'est-à-dire la SET, SETE, qui mène droit dans le mur. Alors salariés investis, donc fermeture de l'édifice pour 24 heures, et dénoncer un modèle économique trop ambitieux, intenable par la CGT, sous-évaluation du budget et surévaluation des recettes à 7,4 millions de visites. Ça n'a jamais été atteint en fait pour la Tour Eiffel, l'ordre c'était plutôt de 6 millions au plus beau moment. Donc selon le syndicat, une dérive incontrôlée de la SET, les salariés ont été appelés à se manifester sur les 352 millions d'euros de travaux. Ce sont les chiffres de la CGT. Et puis pour terminer cette page, on va conclure finalement avec c'est à Saint-André près de Lille dans le Nord. Il y a peu d'arrangements en fait depuis un moment chez Emmaüs et ce sont les travailleurs donc sans papiers qui payent et qui luttent depuis le mois de juin 2023. Alors c'est un gain pour personne évidemment puisque le préfet du Nord qui a mis ses pieds dans l'affaire a ordonné la fermeture du lieu. Le 4 janvier, une dizaine de compagnons devant la halte Saint-Jean observent comme sur d'autres lieux une grève avec la CGT comme autre compagnon qui dénonce l'attitude du préfet. Tactique évidemment pour diviser le mouvement puisqu'il a lieu dans plusieurs villes en fait, dans le Nord, chez Emmaüs, ça va pas bien. Donc les travailleurs sans-papiers qui doivent être relogés par Emmaüs ne touchent plus de paye depuis 6 mois et l'OQTF évidemment guette à la porte. Les revendications sont précisément une régularisation pour leur dossier, avoir des papiers en bonne et due forme et des payes également en bonne et due forme, des payes convenables. Alors seul revenu qu'ils ont pour le moment, ce sont des tickets restaurants et une aide locale solidaire. Pour certains d'entre eux, il y avait une présence quand même de 3 ans en France. Et voilà où ils en sont. Merci Emmaüs.
Et c'est avec ça qu'on va terminer cette émission Idées Noires, l'émission de l'Union communiste libertaire. On va rappeler juste les 3 rendez-vous importants de cette fin de semaine et de la semaine prochaine. On vous le disait tout d'abord à bien noter dans vos agendas la projection du documentaire La Terre parle arabe de Maryse Gargou, qui était prévu demain, jeudi 11 janvier à 19h à la Plume Noire, est reporté au jeudi suivant, au jeudi 18 janvier. Même heure, même endroit, 19h librairie La Plume Noire, un documentaire sur bien évidemment la situation à Gaza, suivi d'un débat. Reporté tout simplement parce que demain à 19h, on vous appelle plutôt à vous rassembler de comme partout en France devant la préfecture de Lyon pour suite, je dirais, autour un peu de l'affaire de Depardieu et du soutien qui a été apporté par le président de la République Emmanuel Macron, et bah pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles, leur banalisation et leur institutionnalisation, pour dire que ce vieux monde de violences sexistes et sexuelles, et ben on n'en veut plus, on n'en veut plus. Et c'est pour ça qu'un collectif de très nombreuses organisations féministes appelle devant toutes les préfectures demain à 19h à se rassembler. Et puis dernier rassemblement, manifestation, ça sera dimanche, 14h, place Bellecour, contre la loi Darmanin, la loi sur l'immigration et le droit d'asile, une loi, on vous l'a dit, antisociale et xénophobe auquel on s'oppose, et là aussi à l'appel essentiellement de collectifs de sans-papiers et autres, dimanche 14h, place Bellecour à Lyon. Voilà, c'est avec ces informations qu'on termine cette émission Idées Noires. Idées Noires, c'est mercredi prochain sur ce 102.2 de Radio Canu à 20h, et puis moi je vous retrouve juste après le générique pour la bande-son de nos révoltes.
Allez, bonne émission David, à mercredi.
Luce e volta.